Limite.
Quelle est ta définition du réel? C'est comme les maillons d'une chaîne.
Le point culminant de votre civilisation.
Préparez très fort, protéger ce qu'on aime.
Bravo, grand bienfaiteur de l'humanité.
On trouve en soi une force que l'on ne soupçonnait pas.
On ne peut pas résoudre un problème.
Exponential growth will take us to the limit.
Limite.
Very soon.
Avec le même mode de pensée que celui qui a généré le problème. Nouveau talk sur Limite avec Jean-David Zetoun, docteur en médecine, hépato-gastro-entérologie, diplômé de Sciences Po et docteur en épidémiologie clinique. Notre invité a un sacré CV, ses travaux de recherche concernent la régulation des médicaments, les risques associés au traitement, l'économie de la santé, la qualité des soins et la santé populationnelle. Il est l'auteur de plus de 120 articles scientifiques, dont la moitié figure dans des revues internationales. Nous allons parler d'alimentation, de système de soins, de sucre, des causes de décès dans le monde, de l'espérance de vie qui soit stagne, soit baisse, et de notre addiction alimentaire qui nuit à notre santé. Et tout ceci fait référence à son dernier livre disponible, Le suicide de l'espèce. Limite.
Quelle est ta définition du réel?
Jean-David, bienvenue sur Limite.
Salut Vincent.
Comment tu vas?
Ça va bien, merci.
La santé, tout roule?
J'espère.
J'espère pour toi aussi. Merci. Si tu es ici avec nous aujourd'hui, c'est parce que on est en train de se suicider. Alors j'ai un rire nerveux parce que le titre de ton livre veut tout dire, le suicide de l'espèce. Oh my god. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous de votre côté, dites-nous comment vous allez en commentaire. Est-ce que vous êtes abonné? Si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à cette chaîne. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux. Merci de nous aider aussi sur Tipeee. On remercie les tipeurs, bien entendu, tous ceux qui nous font des dons sur Utip et Paypalmi. Et n'oubliez pas quelque chose de très important, c'est de changer la résolution de ces vidéos parce qu'on est parti pour discuter longtemps. Nos podcasts sont bien sûr disponibles sur Spotify, sur Deezer et tout le reste. Et la résolution, si vous la mettez changer sur YouTube, mettez-la genre en 144, c'est très bien pour de l'audio, on est au top. Jean-David, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas?
Oui, bien sûr, merci beaucoup pour l'invitation déjà. Donc moi je m'appelle Jean-David, j'ai 43 ans, je suis médecin, je travaille à Paris. J'ai, en plus de mon doctorat en médecine, un doctorat en épidémiologie et donc j'ai été amené à m'intéresser à des questions de santé à l'échelle de la population. J'ai écrit un premier livre que j'ai publié en 2021 qui s'appelait « La grande extension » qui était sur l'histoire de l'amélioration de la santé humaine, qui racontait donc une histoire de progression un peu incroyable avec un triplement de l'espérance de vie en moins de 300 ans. Mais évidemment, la fin du livre, c'était l'ère actuelle. Et donc, c'était une observation que la société mondiale était en train de produire des problèmes de santé. Et donc, sans originalité, le deuxième livre traite plus précisément de ces problèmes de santé et de leurs causes profondes.
Ben justement, l'espèce humaine, en fait, on a créé les armes de notre destruction, j'ai l'impression, là-dedans. C'est vrai, on est en plein suicide, là?
Alors, évidemment, le titre, c'est une expression imagée, mais
oui,
de fait...
Oui, c'est une miniature YouTube qui nous attire, mais mine de rien, quand on regarde un petit peu, je te laisse expliquer, mais c'est quand même sans appel. Hein.
L'espèce humaine est en train de produire des risques qui sont donc de fait les armes de sa maladie et de sa mortalité. Donc, ça n'est pas toujours un suicide conscient, ça n'est pas toujours un suicide intentionnel, mais de fait, la société mondiale produit beaucoup de risques qui sont très mauvais pour la santé et qui ont des effets palpables statistiquement sur la maladie et la mortalité humaine.
Il y a plein de choses qu'on va creuser dans ce livre, j'ai envie qu'on se pose vraiment, tu vois, et qu'on l'approfondisse, pas dans les détails, mais j'ai envie que les gens aillent le choper s'ils sont chauds quand même. Moi, tu sais, quand je regarde un petit peu, je donne mon analyse, qui n'est pas du tout une analyse d'expert, mais c'est plus de mon feeling au quotidien, en voyant un peu mes parents, les problèmes de santé, etc., c'est que j'ai l'impression que notre industrie agroalimentaire, ce qui nous permet de manger, en fait, est en train de nous empoisonner littéralement, et qu'en fait, le système pharmaceutique est en train de réparer les pots cassés, et au lieu de véritablement, j'ai envie de dire, nous soigner, en fait, il nous met des pansements, il colmate une petite rustine par-ci, par-là, et souvent, je me dis, non, mais attends, est-ce qu'il faut changer le système pharmaceutique, ou au contraire, c'est l'alimentation qui est tout le nœud de ce bordel?
Alors, l'alimentation n'est pas le seul risque, mais c'est un risque majeur sur Terre. L'obésité, par exemple, qui n'est pas le seul résultat des maladies d'origine alimentaire, mais qui est un symptôme choquant et signifiant aussi, c'est 5 millions de morts par an.
5 millions de morts pour l'obésité?
Par an.
À l'échelle de la planète?
À l'échelle de la planète, en sachant qu'il y a à peu près 57 millions de morts par an dans le monde.
C'est ça, et j'ai vu que, justement, c'est dans tous les pays que c'est en train d'augmenter?
Il y a zéro pays qui arrive à faire baisser l'obésité. Donc, soit l'obésité est stable, soit, dans la plupart des cas, elle est plutôt en croissance.
C'est dentarisation, c'est...
Alors, il y a trois causes possibles qui s'accumulent. C'est premièrement, effectivement, une moindre activité physique. Deuxièmement, une plus grande quantité d'alimentation. Troisièmement, une qualité d'alimentation qui est moins bonne qu'avant, avec en particulier, je pense qu'on va en parler, le caractère ultra transformé de l'alimentation, qui est un facteur majeur de production de maladies métaboliques chroniques et d'obésité.
Et donc, du coup, toi, tu sais quoi ton avis sur... Alors, toi, tu fais partie de ce système de santé.
Alors le système de alors c'est le système de soins.
De
il
n'y
a pas de système.
Pas,
oui, aucun pays n'a un système de santé. La santé ne se produit pas dans le système de soins. La santé, la bonne ou la mauvaise santé, ça se produit en dehors du système de soins, dans la société. Et le système de soins, c'est un peu comme un atelier de réparation qui est là pour essayer d'atténuer ou même d'annuler les problèmes qui sont soit des problèmes naturels, ça existe encore, soit des maladies qui effectivement sont causées par les activités industrielles ou les activités humaines, ce qui revient un petit peu au même. Donc le système de soins, il a un avis là-dessus qui a une portée limitée. Effectivement, nous, en tant que médecins, mais n'importe quelle personne peut voir qu'il y a des choses qu'on voit aujourd'hui qui n'existaient pas avant. L'obésité chez l'enfant, par exemple, il y a 30 ans ou 40 ans, c'était anecdotique. Aujourd'hui, c'est significatif en termes de fréquence. La progression du diabète, c'est un truc aussi qui est jamais vu dans l'histoire. Il y a des années où le diabète est en croissance de 10%. La croissance économique mondiale, c'est pas du tout 10%. Donc on a aujourd'hui, pour certaines maladies, qui encore une fois sont des maladies d'origine anthropique, une progression, donc une croissance qui est supérieure à la croissance économique, c'est-à-dire supérieure aux moyens qu'on a pour traiter les maladies.
Tu sais, c'est intéressant, quand tu as parlé de diabète, j'avais vu une expérience qui, dans un supermarché, retirait tous les produits à base de sucre.
Oui.
Il ne restait quasiment plus rien.
Oui, alors c'est effectivement, je ne suis pas étonné de cette anecdote ou de cette expérimentation. Quand la population mondiale a doublé, la consommation mondiale de sucre a triplé. Voilà. Donc ça veut dire que la quantité moyenne de sucre prise par chaque humain sur Terre a augmenté, et évidemment ça ne correspond pas à un besoin. On n'a pas besoin de manger plus de sucre que ce qu'on mange déjà, on en mange déjà trop au contraire. Donc oui, on a un énorme problème de production de maladies métaboliques par l'alimentation, et le sucre est une des causes majeures, si ce n'est la cause principale, de ce problème alimentaire.
Et donc de maladies cardiovasculaires.
Alors, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, une dizaine de cancers, le diabète, les conséquences articulaires, les maladies mentales, certaines maladies auto-immunes, des maladies digestives, il y en a plein.
C'est dingue, donc le sucre, c'est un peu... Est-ce que c'est pas ça la grande drogue, en fait? Parce que le sucre, moi, j'y suis addict, je vais être très honnête avec toi. Et il y a des moments, j'ai envie de... Quand je me sens pas bien ou quand je suis là, j'ai envie de me faire un petit Twix ou un petit paquet de bonbons, tu vois. Et ça me permet de me faire un petit coup de
dope. Un shoot de plaisir.
Un petit shoot de plaisir, exactement. Mais en fait, c'est ça, c'est que... Est-ce qu'on a tellement amené ce sucre dans tous nos aliments juste en fait pour nous forcer à les racheter et pour continuer en fait à enrichir un système?
Alors on sait que c'est addictif, hein. Il y a des tonnes de données qui prouvent que c'est addictif, soit des données biologiques, soit des données animales, soit des données humaines, soit même des données épidémiologiques qui montrent que plus il y a de sucre dans les aliments, plus les gens en achètent. Plus il y a de sucre dans les aliments, plus ils sont insensibles au prix de ces aliments. C'est-à-dire, même si le prix augmente, les gens ne baissent pas beaucoup leur consommation.
Ah ouais, d'accord.
Il y a des données chez les animaux qui montrent que quand on donne à certains rats du sucre, et en particulier certains sucres comme le fructose, ils deviennent réellement dépendants. C'est-à-dire qu'ils deviennent dermeux quand ils n'en ont pas, et dès qu'on leur en remet, ils se jettent dessus. Donc bien sûr qu'il y a un effet addictif. De toute façon, il y a plein d'éléments qui sont addictifs dans la société d'aujourd'hui, les réseaux sociaux numériques étant un autre exemple. Et tout ça est mauvais pour la santé.
De quoi on meurt aujourd'hui?
Alors, dans le monde, on meurt à 3/4 des cas de maladies chroniques, c'est-à-dire les maladies cardiovasculaires et les cancers. On a à peu près 17% des gens qui meurent d'une maladie microbienne. Dans les pays occidentaux, comme la France ou la Belgique, c'est beaucoup moins. Mais à l'échelle mondiale, c'est encore à peu près 17%. Et il reste 8% d'humains qui meurent chaque année d'une cause violente, que ce soit une cause intentionnelle ou accidentelle.
C'est intéressant ça, donc les accidents ou alors les meurtres et tout ça...
C'est 8% de la mortalité mondiale.
8%
de
la mortalité mondiale. Tiens, j'aurais dit plus des accidents, que ça régulait.
Bah, c'est déjà beaucoup, 8%.
Bien sûr, clairement.
Le suicide, c'est 1,5% à peu près. Donc ça veut dire qu'il y a...
Quand même ?
Oui, bah oui, 800 000 morts par an à peu près. Et le suicide est en baisse dans le monde. Le suicide de l'espèce est en hausse, mais le suicide direct est en baisse dans le monde.
D'accord, la volonté personnelle, individuelle de passer à l'acte.
Ça, c'est en baisse, parce qu'on a agi sur l'offre de suicide. Et ça, c'est un message très important.
Qu'est-ce que tu veux dire par là? On a agi sur
les moyens disponibles pour se suicider.
Ah ouais.
Les pays ne font pas baisser leur suicide parce que les gens seraient moins malheureux, ça probablement que ça ne bouge pas beaucoup. Ouais. Mais par contre, ils limitent l'accès aux armes du suicide et donc de fait, ça limite le passage à l'acte. Certains poisons, certains médicaments, certaines armes. Aux États-Unis, les armes, par exemple, sont
et
tellement
disponibles. Et on voit l'effet de corrélation.
Ah ben bien sûr, sur le suicide ou sur les violences auprès de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de doute. L'offre est l'élément le plus important qui détermine nos comportements.
J'ai envie de retourner un petit peu dans le passé, voir un petit peu d'où on vient. Forcément, bah, la population elle s'est décuplée. Hein. Je crois qu'on était à 1,5 milliard au début du siècle.
En tout cas, on sait qu'il y a eu une croissance démographique au cours des 300 dernières années qui n'est jamais vue en termes d'accélération.
Parce que forcément, sur cette chaîne, on parle beaucoup de la corrélation avec les énergies fossiles, leur exploitation, l'augmentation de cette croissance économique. Augmentation de croissance économique, c'est un peu un pléonasme, comme monter en haut, mais bref.
Non, ben si, parce que la croissance a accéléré à partir... On sait que c'est à partir de 1820 qu'il y a eu un décollage de la croissance.
Et comment est-ce que ça se passait avant? Parce que souvent, on dit, oui, tiens, mais l'espérance de vie, vers les 1800 et quelques, elle était d'une trentaine d'années.
Oui, c'est vrai.
Mais que c'était ramené, en fait, à une mortalité infantile.
Exactement.
Assez élevée.
Oui, exactement. En fait, on sait que depuis la révolution néolithique, donc le moment où les humains se sont fixés, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté d'être des chasseurs-cueilleurs, pour former des petites sociétés, des petits villages ou des petits groupes. À ce moment-là, il y a à peu près 12 000 ans, ils ont commencé à vivre en proximité les uns avec les autres et à vivre en proximité avec les animaux. Et à ce moment-là, leur santé s'est dégradée. L'espérance de vie des chasseurs-cueilleurs était à peu près de 40 ans, c'est ce qu'on pense, à partir des archives squelettiques, alors que l'espérance de vie des premiers humains qui ont fait la transition néolithique, on pourrait penser que c'est un progrès, en fait, l'espérance de vie a baissé à ce moment-là parce qu'il y a eu plus de microbes, justement à cause de la proximité avec les animaux et qui se transmettaient entre eux puisqu'ils étaient un peu tout le temps les uns sur les autres. Et l'espérance de vie, à partir de ce moment-là, est tombée probablement autour de 25-30 ans.
C'est une grosse différence, hein.
Énorme, énorme. Et elle a stagné à ce niveau médiocre pendant 12 000 ans. C'est-à-dire jusqu'au milieu du XVIIIe siècle pour
jusqu'à l'exploitation massive des énergies fossiles.
Jusqu'à ça a commencé un peu avant la croissance, c'est-à-dire qu'au milieu du XVIIIe, donc vers 1750, il y a des premières mesures de santé publique donc qui prédatent de la révolution industrielle, qui commencent à améliorer un petit peu la mortalité infantile et donc la mortalité générale et donc l'espérance de vie. Mais clairement, la révolution industrielle à moyen terme a permis d'améliorer les standards de vie et donc de continuer à faire progresser l'espérance de vie. Pendant la révolution industrielle, l'espérance de vie a un peu baissé dans pas mal de pays, surtout ceux qui l'ont prise tôt, parce que ça a été associé à une urbanisation et à des conditions de vie totalement
lamentables. Oui, des gens qui travaillent dans des usines, voilà. Ça, en fait, ça les a pas du tout aidés.
À ce moment-là, ça baisse. J'en parlais plus dans le premier bouquin, mais on en parle un peu ici. À ce moment-là, ça baisse un peu, notamment en Angleterre. Et après, le résultat quand même... à moyen terme, c'est-à-dire au bout de 30-40 ans de la révolution industrielle, c'est de créer de la richesse, donc d'améliorer les standards de vie.
Et puis les luttes sociales aussi, qui offrent des jours de congé, un petit moment de repos.
Pas tout de suite, ça c'est plutôt 19e, 20e. Mais d'améliorer un peu les standards de vie, et donc de désinfecter l'environnement, c'est-à-dire d'avoir de l'eau potable, de pouvoir évacuer les déchets des villes, ce qui en ce moment n'est plus possible à Paris. Mais voilà. Mais donc,
au moment de cette vidéo, en tout cas.
Exactement. Donc du coup, la révolution industrielle, à court terme, ça a eu un effet négatif. À long terme, évidemment que ça a eu un effet positif, puisque entre 1750 et 1950, pendant 200 ans, l'espérance de vie moyenne des Occidentaux a doublé. C'est pas rien.
Donc il y a eu un effet un peu de latence, comme ça.
Ouais.
Il fallait attendre avant que ça porte ses fruits.
Ouais, une courbe en J.
Voilà. Mais alors, quand on dit qu'avant, la mortalité infantile était importante, moi, il y a un truc que j'ai découvert, je l'ignorais, c'était que c'était majoritairement, mais je veux dire, les premières personnes qui mouraient à l'époque, c'était des enfants de moins de 5 ans.
Exactement.
Alors qu'aujourd'hui, c'est des gens de plus de 65 ans.
Exactement. Donc, en Occident, à partir du milieu du 18e, la mortalité infantile commence à baisser. Dans le reste du monde, il a fallu attendre l'après-Deuxième Guerre mondiale pour que ça arrive. C'est-à-dire que le rattrapage des pays sous-développés, ça a commencé plutôt à partir de 1950. Et donc, c'est pour ça qu'à l'échelle mondiale au 20e siècle, la transition de l'âge de la mort, elle se fait à partir de la Deuxième Guerre mondiale.
Comment t'expliques aujourd'hui que les maladies chroniques, donc type cancer, maladies cardiovasculaires, l'hypertension,
oui.
12 millions de morts, un truc dans le genre.
Ouais, un peu moins, exactement.
Je suis choqué parce que je connais des gens de mon entourage qui font de l'hypertension, quoi,
oui.
Et qui sont jeunes. Rapidement, vulgarisation, hypertension pour les gens, c'est quoi ton sens?
Donc, l'hypertension artérielle, c'est une augmentation de la pression dans la paroi des vaisseaux. C'est largement une maladie qui est liée à l'âge. Hein. Pour le coup, ça, c'est pas énormément une maladie d'origine anthropique. Mais c'est un facteur de risque cardiovasculaire majeur et à l'échelle mondiale, c'est indirectement responsable effectivement de 12 millions de morts par an, ce qui en fait le premier facteur de risque.
Du coup, espérance de vie, on est une trentaine d'années au siècle dernier, au début du siècle 1850 et tout ça. Et au fur et à mesure, là aujourd'hui, on a atteint 82, 86 pour les femmes.
Oui, alors en France, c'est cet ordre-là, oui, tout à fait.
Comment ça se passe dans les pays du tiers-monde ?
Alors c'est moins, à l'échelle mondiale, l'espérance de vie, c'est 63 ans. 73.
Ok. C'est...
Voilà, en France, qui est, c'est entre 78 quelque chose et 82 quelque chose, selon les femmes vivent plus longtemps que les hommes en moyenne. Ça, c'est un fait du XXe siècle.
Ah d'accord.
Avant, c'était plutôt l'inverse.
C'est vrai ?
Oui, bien sûr.
Tiens, c'est quoi ? Il y avait plus d'hommes au travail, entre guillemets ?
Non, mais
c'est-à-dire
qu'on s'occupait moins des filles. Il y avait des inégalités de sexe qui étaient absolument épouvantables. Et on sait même que quand un garçon naissait dans une famille, la mère baissait son espérance de vie, parce que le mari lui demandait de s'en occuper absolument, alors que quand c'était une fille, il lui demandait de ne pas s'en occuper, donc la fille avait moins de chances de survivre, mais la maman vivait plus longtemps. Enfin, on vient de très loin, hein. C'est très dur. Hein.
Bon, au moins, l'anthropocène a eu des bons
aujourd'hui,
effets.
Aujourd'hui, au XXe siècle, et c'est encore vrai au XXIe siècle, les femmes vivent plus longtemps que les hommes en moyenne, et très nettement, hein, il y a 4-5 ans de différence moyenne d'espérance de vie entre les hommes et les femmes selon les pays, et pour l'espérance de vie en bonne santé, c'est moins clair, mais on pense qu'elles vivent aussi un peu plus longtemps en bonne santé que les hommes. Elles ont des comportements moins à risque, notamment, ça joue un rôle important.
Mais on y est là maintenant, l'espérance de vie. Il y a des informations qui ont circulé d'actualité que le Covid a fait baisser l'espérance de vie en France de quelques mois et aux États-Unis avec un chiffre un peu plus important.
Beaucoup plus important, 3 à 4 fois plus important.
3 à 4 fois plus important. On ne va pas creuser aujourd'hui les raisons politiques ou de système de soins qui n'est pas du tout le même. Ça peut prendre beaucoup de temps. Mais j'ai envie de prendre cet exemple-là sur ça y est, en fait, c'est le moment où l'espérance de vie baisse.
Alors, bon, pendant le Covid, elle a baissé dans 100% des pays avec des intensités très différentes entre certains pays qui s'en sont plutôt bien sortis statistiquement.
Et tout ça est démontré, on est d'accord.
Alors, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Il y a toujours des gens qui auront des doutes, mais la réalité, c'est que...
Ce n'est pas dû au vaccin, c'est bien dû au virus SARS-CoV-2, on est bien d'accord.
La première année, il n'y avait pas de vaccin. Et plus il y a eu de vaccins, plus l'espérance de vie a retrouvé à peu près son niveau d'avant.
Donc ça, on va toujours préciser, parce que de toute façon, on a 2-3 commentaires bizarres qui arrivent.
Honnêtement, il n'y a pas de doute sur le fait que ce vaccin a été extraordinairement efficace à partir du moment où il a été diffusé, c'est-à-dire pas tout de suite. Et il n'y a pas de doute non plus sur le fait que le Covid, pendant les 2 premières années de la pandémie, a occasionné une surmortalité mondiale de 18 millions de personnes. Mmh. Voilà, c'est les chiffres. 2020-2021, c'est 18 millions de surmortalité mondiale
par rapport
sur
à
les deux
toutes
années.
Les moyennes qu'on a toujours enregistrées.
18 millions de morts en plus, direct ou indirect du Covid. Voilà. Donc le Covid, c'est un drame. Et encore, il y a eu un confinement, il y a des systèmes de soins, etc. Ça aurait pu être 4 ou 5 fois pire. Ça aurait pu être 100 millions de morts ou 200 millions de morts si on n'avait rien fait.
C'est vrai.
Bon. Ensuite, donc en 2020 et 2021, l'espérance de vie a baissé. Anecdotiquement, l'espérance de vie a moins baissé en moyenne dans les démocraties par rapport aux autocraties. Les démocraties ont été des systèmes, des sociétés plus efficaces pour lutter contre le Covid que les pays non démocratiques. Ça aussi, ça a été bien montré. C'est tendanciel, c'est une moyenne. Les États-Unis sont une démocratie, c'est un contre-exemple, puisqu'eux, ils ont très mal vécu ça. Mais en moyenne, les démocraties s'en sont mieux sorties. Ensuite, en 2022, en France, on a l'INSEE qui a publié les données en janvier pour l'année 2022. Ça s'arrête à novembre 2022 et l'espérance de vie en France ne progresse plus. Elle a baissé dans certaines catégories de population, elle stagne dans d'autres catégories de population par rapport à 2019, qui est la dernière année sans pandémie. Donc effectivement, indépendamment du Covid, on commence à voir une stagnation de l'espérance de vie, y compris en France. Aux États-Unis, l'espérance de vie avait commencé à baisser à partir de 2015 pour des raisons qui sont purement anthropiques, c'est-à-dire les suicides, les overdoses, l'alcool, l'obésité. Donc oui, on a des problèmes de santé qui commencent à se répercuter sur les statistiques nationales et qui ne sont pas dus à des éléments naturels.
Et donc ça y est, en fait, est-ce que nous arrivons à une diminution, une contraction globale de l'espérance de vie
On rentre dans une zone d'incertitude qu'on n'a pas connue depuis 300 ans. Je pense. Hein. Mais on verra bien, ça peut repartir. Hein. On sait le faire. Ça ne montera pas jusqu'au ciel. Mais on peut encore progresser.
C'est ça, l'être humain a des limites physiques aussi.
Probablement, il y a un débat sans fin là-dessus, mais...
On a des limites métaboliques.
Ouais, alors le nombre de centenaires augmente dans le monde. Donc ça, quand les gens veulent dire qu'il n'y a pas de limite, c'est un des arguments. Moi, je ne sais pas. C'est un débat qui n'est pas tranché scientifiquement. Il y a des gens qui pensent qu'on a des limites biologiques, d'autres qui pensent qu'on peut continuer à progresser.
Globalement, il me semble que tu avais dit quelque part que l'espérance de vie, depuis 2010, il y avait quelque chose qui se produisait, une sorte d'anomalie.
Oui, depuis 2010, les données sont moins claires. C'est-à-dire qu'on n'a pas de doute sur le fait que l'espérance de vie a continué à progresser après la Deuxième Guerre mondiale, donc pendant toute la deuxième moitié du XXe siècle, y compris au début du XXIe siècle.
Pendant la grande accélération en même temps. Hein.
Exactement. Grâce à la médecine et la pharmacie. C'est-à-dire que l'espérance de vie dans les pays occidentaux avait progressé pendant 200 ans, presque uniquement grâce à la santé publique, la désinfection de l'environnement, l'eau potable, l'alimentation, et puis un peu de vaccination quand même. Et à partir du milieu du XXe siècle, ça continue au même rythme, c'est-à-dire on gagne 3 mois de vie par an, donc on capture un quart du temps à chaque fois, c'est énorme. Mais c'était plus grâce aux mêmes causes, parce qu'on était probablement au plafond de ce que pouvait produire la santé publique dans les pays occidentaux, et c'était plutôt la médecine et la pharmacie qui ont continué de progresser avec le même rythme. Depuis 2010, les données sont moins claires et on commence à avoir dans pas mal de pays certains indicateurs qui montrent une stagnation ou une régression. Par exemple, en France, la mortalité infantile augmente depuis 2011-2012 à peu près. Mm-hmm. Quand la mortalité infantile augmente, ça ne veut pas dire que le système de soins ne marche pas, ça veut dire que les mamans sont en mauvaise santé et qu'elles accouchent donc de bébés fragiles qui meurent dans les premières semaines ou dans les premiers mois de vie. Aux États-Unis, je l'ai dit tout à l'heure, l'espérance de vie a commencé à baisser à partir de 2014-2015. En 2014, il y a eu un plateau et en 2015, ça a commencé à baisser. Là encore, pour des raisons anthropiques. La mortalité cardiovasculaire a réaugmenté dans certains pays pendant cette décennie 2010, alors qu'elle avait toujours baissé depuis les années 60-70. Donc effectivement, la décennie 2010, c'est peut-être un peu un tournant dans la santé mondiale, puisque c'est une décennie à partir de laquelle les choses ont commencé à se détériorer, y compris dans des pays riches, ce qui est un peu un paradoxe, puisqu'on pourrait penser intuitivement que c'est les pays les mieux armés pour améliorer continuellement leur santé. Ce n'est plus le cas.
C'est drôle, parce que c'est une date assez clé, en fait, cette zone-là. Je vais faire un petit lien de corrélation, hein, des familles, j'aime bien faire de temps à autre. On part du pic pétrolier, pétrole conventionnel en 2008, qui est quand même un approvisionnement super important en termes de production de médicaments, production alimentaire aussi. Alors attention, il y a des biais là-dedans. Hein. Tu peux avoir très peu de pétrole et toujours utiliser ça pour faire une agro-industrie de produits transformés qui sont très mauvais et qui peuvent aussi jouer là-dedans. Mais est-ce qu'il y a, en sachant que la croissance économique a permis à rebours de faire augmenter cette espérance de vie, est-ce qu'une stagnation de la croissance économique, ou en tout cas des énergies qui nous permettent qui sont la base de notre système de soins, est-ce que le fait que ça stagne, cet approvisionnement en énergie, peut avoir un effet et peut expliquer en partie cet effet de stagnation et de réduction légère tout doucement? Enfin, il y a plein de facteurs. Hein,
à ma connaissance, ça n'a pas été étudié. Je dirais plutôt non comme ça. À partir de 2010, en fait, c'est les effets de ce qui a été préparé dès les années 70 qui commencent à se manifester dans les statistiques nationales. Le problème qu'on a aujourd'hui avec la santé mondiale, la pollution, l'obésité, les maladies métaboliques, c'est un problème qui vient de très loin. Ça se prépare longtemps à l'avance. Et c'est probablement à partir des années 70 que tout a commencé à merder dans le monde en termes d'énergie, en termes d'alimentation, en termes de pollution. Et ça ne se voit pas tout de suite. Mais 2010, c'est probablement le moment où ça a commencé à être tellement important que ça s'est vu dans les statistiques. Tout à l'heure, je disais que l'espérance de vie aux États-Unis avait baissé en 2015, mais on sait que dès les années 90, certains groupes de population ont commencé à voir leur mortalité augmenter aux États-Unis. Mais c'est des minorités.
C'est les Noirs et les...
Eh bien non, justement, c'est plutôt les Blancs, c'est pour ça que ça a
c'est
fait...
C'est vrai
une... Bien sûr, parce que... Alors ça, ce sont les travaux d'Angus Deaton, c'est un économiste qui ne s'est pas tant intéressé que ça à l'économie pendant la dernière partie de sa carrière, mais plutôt à la santé. Il a montré que l'espérance de vie continuait de s'améliorer chez les Noirs américains, puisque là-bas, ils ont le droit de faire des statistiques ethniques, alors que celle des Blancs était en décroissance. Et ce sont ces mêmes Blancs qui votent pour Trump parce que, justement, ils se révoltent contre le système américain ou en tout cas contre ce qui est en train de devenir les États-Unis et qui, à leurs yeux, est un problème. Les Noirs sont plus résilients. Les Noirs ont une progression sociale, même s'ils sont encore énormément discriminés aux États-Unis. Pour autant,
c'est là où il y a le plus de progression d'un point de vue.
Pour autant, exactement. Et donc, les Noirs sont plus résilients aux États-Unis et ont vu leur espérance de vie augmenter, sauf pendant le Covid où ils ont été des victimes totales.
Parce que là, c'est ceux qui sont le plus atteints, proportionnellement par rapport à la population d'obésité.
Oui, alors exactement. Pendant le Covid, ça a été un contre-exemple. Mais sinon, ce qu'ont montré ces travaux, c'est que les Blancs avaient une décroissance de leur espérance de vie, alors que les autres populations minoritaires, donc les Hispanos ou les Noirs, continuer à progresser socialement et aussi vitalement.
D'accord. Et c'est quoi? C'est parce qu'il y a un palier, et en ayant atteint un certain palier, ça ne pouvait faire que décroître en fonction forcément de ton éducation. L'éducation joue énormément sur ton alimentation. Alors que de l'autre côté, quoi qu'il arrive, en fait, tu démarrais un petit peu plus bas à l'échelle. Je sais pas, j'essaie un peu de
visualiser. Tu parles de des populations américaines ?
En proportion de population et en même temps en accessibilité à... aux soins pharmaceutiques, en développement...
Non, les populations américaines qui sont le plus en décroissance de la santé, c'est les populations rurales, avec une déshérence industrielle et une absence totale de socialité et de perspective économique. Ça, on sait que c'est des populations qui sont dans
Détroit
un état...
Détroit est un bon exemple. Je vois.
Exactement, par exemple. Aux États-Unis, de toute façon, ce qui marche bien, c'est les côtes, la Floride et le Texas. Tout le reste, c'est catastrophique. Et donc, effectivement, les populations blanches ont vu leur santé se détériorer pendant cette période-là. Et ça s'est vu dans les statistiques nationales seulement à partir du XXIe siècle.
C'est vrai, ça, cette notion en France, en Belgique, en Europe, et même à l'échelle mondiale, que les riches mangent naturellement mieux et donc, que globalement, à l'échelle mondiale, ça va mieux pour eux, alors que les pauvres n'ont pas forcément accès. La nourriture industrielle coûte moins cher, hein, c'est normal. Oui. Tu fais beaucoup plus de production à coût minimum. Donc, tu peux vendre des Nutri-Score D, E, à des personnes. Et aussi, j'ai remarqué, alors ça, c'est dans mon expérience personnelle qui ne reflète absolument pas l'image de la société, parce que je n'ai pas donné statistiques, mais que dans mon entourage d'une certaine communauté, une communauté d'immigrés, en tout cas de deuxième génération, font moins gaffe au Nutri-Score que des personnes un peu plus érudites.
Alors, le capital social prédit la santé. Et dans le capital social, il y a l'éducation, le revenu, le réseau. Et donc, le capital social prédit la santé par d'autres déterminants. C'est-à-dire que quand les gens ont un entourage, ont de l'éducation et ont de l'argent, évidemment que statistiquement, ils vont vivre en meilleure santé et plus longtemps, parce qu'ils vont avoir accès donc, à une nourriture de qualité, soit parce qu'ils savent aller vers elle, soit parce qu'ils ont les moyens d'aller vers elle, souvent les deux en même temps. Ils vont avoir accès à des médecins, ils vont plus faire attention à leur santé, ils vont plus investir dans leur santé au lieu d'investir dans la maladie. Donc oui, le fait que le capital social prédit la santé, c'est une loi de la santé aussi vieille que la socialité elle-même probablement, ou en tout cas très ancienne. C'est Vierme en France qui avait montré ça. Il avait fait une étude de corrélation. Il y avait 12 arrondissements de Paris. Vous appelez ça les communes à Bruxelles. Ouais. Nous, on appelle ça les arrondissements. Il y avait 12 arrondissements et il avait corrélé les revenus, l'habitation et la mortalité. Et il avait trouvé une corrélation. À l'époque, sans ordinateur et sans base de données.
Après, c'est très drôle parce que les grands historiens, tu sais, parfois, je ne sais pas du tout à quel âge est mort Victor Hugo.
82, je crois.
Mais c'est-à-dire que c'est une personne qui, statistiquement, enfin, je ne sais pas du tout comment elle vivait, mais faisait partie des érudits de l'époque, alors.
Oui, alors bon, il y a la constitution. Hein, la biologie est un déterminant de la santé
et
à hauteur
le hasard,
de 15-20%. Exactement. Mais oui, 82 ans à cette époque, ce n'était pas quelque chose qui était courant, je pense.
Voilà, c'est ça. C'est intéressant de regarder un petit peu à quel âge sont morts les personnes qui vivaient un peu plus dans l'opulence que les autres à ce moment-là. Alors, je ne connais pas du tout la vie de Victor Hugo. Hein.
Non, c'est difficile de savoir. Voilà. En moyenne, l'éducation prédit la santé.
Après la Deuxième Guerre mondiale, on a vu, et tu l'as dit toi-même, qu'il y a eu vraiment un effet, une transformation, que l'espérance de vie a augmenté et qu'on est en fait...
Elle a continué d'augmenter dans les pays riches au même rythme et elle s'est mise à augmenter selon un rattrapage dans les pays non riches. Et d'ailleurs, les pays non riches ont rattrapé la santé des pays riches plus vite que leurs revenus. Donc ça a été plus rapide quand on regarde les courbes de croissance économique ou les courbes d'espérance de vie. On voit que c'est plus facile, entre guillemets, de rattraper de la santé que de rattraper de la richesse. Parce que la santé, ça passe par des déterminants qui ne sont pas matériels, qui sont juste l'éducation, justement, la santé publique, le fait de se laver. Tout ça, ça coûte pas cher. Donc il n'y a pas besoin d'énormément d'argent pour commencer à rattraper la santé des pays riches. Par contre, rattraper la richesse...
T'as un progrès rapide.
Bien sûr, c'est assez facile, entre guillemets, maintenant. Ça coûte pas très cher de faire de la santé publique, y compris pour les pays qui ne sont pas riches. Par contre, rattraper notre croissance économique, ça, il leur faudra théoriquement des centaines d'années. Oui. Si ça se continue au rythme actuel, et ça, personne ne le sait.
Mais donc c'est ça, donc tu as un village qui n'a pas accès à l'eau courante, tu lui donnes accès à l'eau courante, tu as un
suite,
gap
ça a un effet, exactement.
Immense, quoi.
Exactement.
Et les antibiotiques...
C'est pour ça que la Gates Foundation est si efficace, c'est qu'elle développe des solutions low-tech dans les pays où elle va, mais c'est des solutions qui ont un impact énorme.
Qui permettent de gagner beaucoup.
Énorme.
Alors que maintenant, c'est beaucoup d'argent à investir pour grappiller.
Alors que nous, on doit dépenser énormément d'argent pour continuer à augmenter notre espérance de vie, mais parce qu'on a atteint un niveau quand même assez élevé. Les démographes appellent ça l'entropie de la table de mortalité. Plus on vieillit en moyenne et plus il faut faire beaucoup d'efforts pour gagner quelques mois de vie en moyenne.
Ben c'est un peu comme un compteur de voiture, quand tu es en train d'accélérer et que tu es dans le rouge, tu dois injecter beaucoup d'essence pour
peut-être.
Grappiller quelques petits kilomètres, tu roules plus en voiture.
Ben, j'ai pas de voiture.
C'est très très bien. Les antibiotiques, les vaccins ont fait beaucoup de choses, oui. Ça c'est sûr, de manière indéniable, ça a été démontré. L'antibiotique, je trouve ça quand même magique, ce truc.
Oui, les antibiotiques, c'est un truc qui a été inventé dans les années 30, mais qui a commencé à être développé en série par les laboratoires pharmaceutiques, plutôt à partir des années 50-60. Et on pense que ça a joué un rôle important dans la progression d'espérance de vie à partir de cette période, évidemment.
Je suis choqué de me dire qu'avant, tu pouvais mourir d'une coupure, quoi. Tu te coupais,
bien sûr.
Tu pouvais en mourir dans les semaines qui suivaient.
Il n'y avait tellement pas d'antibiotiques qu'au 19e siècle, quand on rentrait à l'hôpital pour une opération, on avait plus de chances de mourir que si on ne se faisait pas opérer du tout.
C'est dingue, mais c'est magique ça. C'est quoi
La sepsie, donc le fait de nettoyer les champs opératoires et aussi les antibiotiques.
C'est vrai que les antibiotiques, on les a prescrits un peu à la volée pendant tout un temps. Et là, aujourd'hui, on dit souvent aux gens, ouais, non, faites gaffe parce que ça ne va pas vous servir d'en utiliser autant.
Alors, on a un énorme problème de ce qu'on appelle le pipeline des antibiotiques, c'est-à-dire quels sont les nouveaux antibiotiques que les laboratoires arrivent à développer et à commercialiser. Et aujourd'hui, on a plusieurs milliers de personnes qui meurent chaque année en Europe à cause d'une antibiorésistance. C'est-à-dire qu'on a des bactéries qui sont devenues résistantes à tous les antibiotiques et les gens meurent de ça, un peu comme avant, justement.
Il ne faut pas se ramasser cette bactérie-là, quoi.
Donc, c'est des bactéries qui sont très problématiques à avoir et on a perdu 10 ou 15 ans parce que les gouvernements n'ont pas donné les incitations suffisantes aux laboratoires pour qu'ils investissent dans les antibiotiques. Les laboratoires ont besoin d'avoir des perspectives de retour sur investissement pour investir dans un domaine donné. Et comme ça n'a pas existé, on a pris beaucoup de retard. Et aujourd'hui, on essaye de combler ce retard. Beaucoup des prescriptions d'antibiotiques aujourd'hui dans le monde, c'est la majorité, je ne sais plus si c'est 60 ou 70%, viennent du monde agricole et de l'élevage, ne viennent pas de prescriptions humaines. Et ces prescriptions-là sont problématiques parce qu'elles aussi, elles développent les antibiorésistances.
Attends, donc nous, déjà, on a un problème parce qu'à force, si on consomme trop d'antibiotiques, à un moment donné, biorésistance, tu peux mourir d'une infection au final.
Banale, exactement.
Banale et tout ça, et qui augmente dans la population, puisque...
En tout cas, ça a pris une place qui est déjà préoccupante et on n'a pas beaucoup de solutions à moyen terme.
Mais alors, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où je veux dire, notre système alimentaire qui fonctionne aussi avec des antibiotiques, le jambon qu'on mange, ton bœuf, tout ça. Mais à partir du moment où il y a des biodérésistances qui se font dans le règne animal d'élevage, pas le règne animal sauvage, dans le bétail et tout, c'est aussi une problématique en termes
C'est très problématique parce que l'antibiorésistance vient entre autres beaucoup de l'utilisation pour l'élevage.
Mais donc, raison de plus alors de diminuer sa consommation de viande
C'est totalement clair et c'est quelque chose qui est complètement connu. Hein. Les autorités de santé essayent de limiter, et d'ailleurs c'est un peu en baisse parce qu'ils ont été tellement dans le collimateur, que on a demandé à l'élevage de limiter la consommation d'antibiotiques parce que c'était... Open bar.
Mais nous, maintenant, nous y sommes. Beaucoup d'antibiotiques sont fabriqués en Chine. On se retrouve dans une problématique à l'échelle mondiale où notre approvisionnement en antibiotiques cesse ou diminue.
Ouais.
Mais il suffit simplement d'un point de vue géopolitique de couper l'approvisionnement d'antibiotiques pour un pays ou autre. Et là, l'espérance de vie, il se passe une dinguerie à ce moment-là.
Oui, bien sûr. Ce serait comme une déclaration de guerre. Donc, je pense qu'aucun pays ne fera ça. Mais effectivement, la Chine et l'Inde sont devenues la pharmacie du monde. Et donc, on dépend énormément de ces pays pour la production de médicaments banals. Et ça s'est vu récemment parce qu'il y a eu effectivement des pénuries ou des ruptures d'approvisionnement. Aujourd'hui, il y a un mouvement de relocalisation en Europe pour certains médicaments essentiels. Ça prendra du temps.
Mais c'est nécessaire à partir du moment où tu le fais pas et que tu te ramasses une bonne bactérie ou une autre maladie, encore un truc dans le genre.
Dans tous les cas, le Covid a montré qu'il y avait peut-être trop d'interdépendance entre les pays sur des produits essentiels. Et donc, effectivement, on serait rassuré de savoir que ces produits sont fabriqués en Europe. Comme ça, s'il y a un choc, on se dit qu'on pourra toujours en avoir.
Dans ton livre, tu mentionnes un truc. C'est ta notion de l'offre et de la demande des risques. J'ai compris les offres, il faut que tu nous expliques. Mais la demande, je n'ai pas compris. Comment c'est avec les offres ? Explique-nous, c'est quoi cette histoire ?
Bon, la thèse du livre, effectivement, c'est de dire que s'il y a une croissance des maladies produites par les activités humaines et industrielles, c'est parce que cette croissance elle-même appartient à la croissance économique et que donc il y a virtuellement, évidemment, un marché avec une offre et une demande. L'offre de risque, c'est soit une offre directe, quand certains industriels mettent en vente des produits directement toxiques, le tabac, l'alcool, l'alimentation transformée, ou la drogue, qui est un marché illégal, marginal, mais qui, quantitativement, n'est pas si dérisoire. Si cette offre continue d'exister et est même en croissance, c'est qu'en face, il y a des gens qui s'exposent aux produits vendus. Et donc, schématiquement ou métaphoriquement, c'est une demande. Alors, il y a plusieurs cas de figure. La logique de la demande, elle est complexe, elle est diversifiée. Bon, il y a plein de cas, d'abord, où il y a des gens qui s'exposent à des risques sans connaître ces risques. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas complexe à comprendre. Quand on ne sait pas que tel produit est risqué, c'est pas anormal qu'on s'expose. Par contre, je pense qu'il y a aussi des cas où les gens sont au courant des risques auxquels ils s'exposent et qu'il y a plusieurs logiques qui peuvent déterminer la poursuite de leur exposition. Soit ils savent qu'il y a des risques, mais ils se trompent sur l'intensité de ces risques. Ils ont l'impression que ça va passer.
Manger des M&M's, on boit du coca tous les soirs.
Voilà, parce qu'on pense que finalement, c'est pas si risqué que ça, parce qu'il y a une addiction, ou parce qu'on le fait des fois juste pendant des moments d'automatisme.
Tout le monde le fait aussi.
Par exemple.
Si c'était dangereux, personne ne le ferait. Tout, les gens
exactement.
Le
donc il y a plein d'erreurs cognitives ou de biais cognitifs qui peuvent faire que les gens continuent à s'exposer à des risques, alors qu'au fond, ils ne veulent pas tomber malades. Et puis, il y a un dernier cas, qui est celui où les gens ont conscience pleinement des risques qu'ils prennent, savent que ça va se faire au détriment de leur santé, mais le font parce qu'ils sont dans une situation de difficulté personnelle, qui préfèrent au moins avoir accès à un plaisir immédiat, notamment dans le cas des aliments sucrés, mais la cigarette c'est la même chose, plutôt que d'investir dans le long terme parce que c'est trop difficile pour eux. Et c'est un cas qui me paraît très problématique parce que socialement c'est pathétique d'en arriver là. C'est pathétique qu'on ait des sociétés où il y a autant de gens qui soient dans une forme de désespoir. Là encore, les États-Unis ont montré l'exemple de façon négative puisque j'ai dit tout à l'heure que quand l'espérance de vie avait commencé à baisser aux États-Unis à partir de 2015, c'était à cause de causes humaines où les gens se suicidaient de façon directe ou indirecte en prenant de la drogue, en prenant de l'alcool, en prenant des médicaments. Et ben, on pense aussi qu'ils le font en s'alimentant mal. Et le suicide réel est en baisse dans le monde, mais le suicide au ralenti via l'alimentation, par exemple, est en hausse dans le monde. Donc il y a comme un suicide qui a remplacé l'autre.
Et c'est, tu me racontes, j'ai l'impression, une histoire de l'Anthropocène où je me dis waouh, le système nous rend complètement addicts aux jeux vidéo, au divertissement, au sucre. Et il nous tue vraiment de l'intérieur, cognitivement parlant, d'un point de vue biologique aussi. C'est effrayant parce qu'on a l'impression d'être dans un cercle vicieux. Et là, toi et moi, on fait une vidéo, c'est sympa, je travaille, on essaye de faire développer cette chaîne. Et puis, il y a des moments où je me dis, ouf, c'est quoi, j'ai envie de me faire une série Netflix. Et je sais qu'après être sorti de cette série Netflix, j'ai l'impression d'être un peu au ralenti, d'être un peu fatigué. Mais que j'ai besoin, après mon travail, d'aller dans quelque chose qui est du divertissement, mais je ressens ce cercle vicieux qui ne m'amène pas vers quelque chose de positif, hein, au contraire. C'est difficile de sortir de là et de le transformer en cercle vertueux.
Alors, premièrement, je suis d'accord sur le fait qu'à mon avis, il y a un effet de système. C'est-à-dire que c'est le système est fait pour aujourd'hui produire de la maladie, comme il est fait, par exemple, pour émettre du CO2. Et les gens ont une marge d'intervention qui est limitée là-dessus. C'est difficile parce que quand je dis ça, souvent, on me dit « mais ce que vous dites, c'est décourageant, les gens, du coup, vont se sentir impuissants ». Il n'empêche que c'est la réalité, de la même manière que les gens ont une marge d'action limitée sur leur empreinte environnementale et sur leurs émissions de CO2. Le cabinet de Jean Covici avait estimé ça à 25%. Et encore, en faisant des efforts surhumains, ils ont aussi un impact qui n'est pas infini sur leur propre santé, surtout quand ils n'ont pas beaucoup de capital social et pas beaucoup de capital économique. Moi, je peux toujours me débrouiller, j'ai beaucoup de chance, et je peux naviguer entre certains risques. Je ne peux pas tous les éviter, mais je peux en éviter certains et m'exposer moins que pas mal de personnes. Il y a des gens qui sont avec des moyens très limités, que ce soit en termes matériels ou en termes de socialité. Et pour eux, effectivement, je suis d'accord sur le fait qu'il y a un effet de système et que c'est très difficile d'en sortir. C'est pas impossible, il faut pas les déresponsabiliser, mais il faut reconnaître que c'est très difficile. Par rapport à l'exemple que tu mentionnes pour toi-même, c'est pas le plus grave, parce que, comme tu le dis, c'est anecdotique. Toi, tu as de l'entourage, tu peux te débrouiller, tu as pas mal d'atouts. Et il y a plein de gens qui les ont pas. Donc ce qui, chez toi, est anecdotique quand tu vas avoir une pulsion pour regarder une série, il y a des gens chez qui c'est systématique et c'est constant. Et c'est ces gens-là qui, je trouve, moi, personnellement, sont les plus vulnérables parce que le système est fait pour les mettre là-dedans.
Pour ajouter TikTok là-dedans, qui est très, très grave.
Je fais exprès de pas m'y intéresser parce que je n'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais j'ai l'impression que c'est un truc qui est problématique.
Ah oui, les neurotransmetteurs, ça est complètement en l'air. C'est... Voilà. Mais c'est effrayant parce que j'ai l'impression que tout notre système donc, est basé là-dessus. Mmh. D'où un petit peu le titre de ce livre, forcément, qu'on est dans un suicide collectif. Et en fait, on a l'impression qu'on est en train de s'euthanasier.
S'euthanasier, c'est si on était déjà malade. Mais en tout cas, le terme de suicide est justement choisi parce que, effectivement, les armes de la maladie et de la mortalité sont produites par l'espèce humaine elle-même. Ça ne veut pas dire que c'est les gens qui les font.
Au bénéfice, quand même,
d'une minorité d'acteurs industriels.
Voilà. Ça, c'est toujours un peu le dénominateur commun de toutes nos vidéos, j'ai l'impression. Mmh.
Qui ne sont pas des voyous en soi, mais qui, de fait, produisent des risques et des
maladies. Qui font partie aussi de ce système-là.
Parce qu'on les laisse faire.
Très bien. Donc, c'est ça. Comment est-ce qu'on change tout ça? Comment est-ce qu'on parvient à infléchir ce truc-là? C'est quoi? Il faut faire la technique Louis XIV, Louis XVI, pardon.
J'ai pas envie d'utiliser ce terme-là parce que sinon on va faire strike. D'abord, il y a un truc, c'est qu'on a déjà réussi à réprimer des risques, y compris récemment. Le tabagisme, c'est pas le truc le plus facile à réprimer parce que la cigarette c'est extraordinairement addictif. Le tabagisme est en baisse dans le monde. La quantité totale de cigarettes fumées.
C'était sérieux. Hein.
Voilà, la quantité totale de cigarettes fumées augmente par un effet de démographique, mais
plus de population, tu veux dire?
Voilà, exactement. Mais le pourcentage d'une population qui fume est en baisse en moyenne dans le monde.
Plus de fumeurs dans le monde.
Oui, mais
parce
moins
que
de
plus de population.
Plus de monde.
Mais globalement, à l'échelle du nombre de gens qui fumaient il y a 20, 30, 40
c'est
ans,
moins, c'est moins. Pourquoi? Parce que, et on va y revenir, les leaders politiques s'en sont pris réellement au problème du tabac en agissant sur l'offre de tabac et non pas sur la demande. C'est-à-dire qu'ils ont régulé et qu'ils ont taxé. Pour les autres risques dont on parle, les émissions de CO2, la pollution, l'alimentation, l'offre est intacte. On ne régule pas et on ne taxe pas ceux qui produisent du risque. On les laisse produire du risque et on demande aux individus, c'est là où je trouve qu'il y a une injustice, on leur dit, il ne faut pas le faire. Débrouillez-vous.
C'est à vous de prendre votre responsabilité.
C'est pas vrai, ça ne marche pas. Sinon, on n'aurait pas de problème. Sinon, on n'aurait pas des émissions de CO2 en hausse, on n'aurait pas une pollution mondiale en hausse, on n'aurait pas une croissance de l'obésité. C'est trop difficile d'échapper à un système.
Régulation ?
Alors, la régulation, elle a existé pour le tabac, et je pense qu'il faut la même pour les autres.
Le Nutri-Score, ça a un effet ?
Alors, le Nutri-Score, c'est une régulation soft, puisque c'est une régulation par l'information.
C'est ça.
Donc, c'est le niveau vraiment gentil.
C'est encore gentil, vous, le citoyen consommateur, vous devez...
Voilà, on vous donne l'info, ce qui est déjà quand même la moindre des choses, de savoir ce que tu achètes quand tu manges.
Ça a un effet, déjà ?
Bien sûr, ça marche.
Quand
les industriels ne veulent pas d'un truc, c'est que ça marche. Les industriels ont tout fait pour empêcher le Nutri-Score, ils n'ont pas réussi, mais ils n'en voulaient pas parce qu'ils savaient que les gens allaient tenir compte de ce Nutri-Score. Les gens ne sont pas des imbéciles.
D'accord. Oui, mais c'est un peu comme l'éco-score, alors. À revoir, hein, puisqu'il y a pas mal de discussions autour et tout ça. Mais c'est aussi quelque chose que les industriels ne veulent pas mettre sur leurs produits de base.
Ah ils n'en ont massivement pas voulu, parce qu'ils savaient très bien que ça allait orienter les comportements d'achat.
Donc là, maintenant, il faut des lois qui tombent, qui interdisent directement. Voilà, avant, il n'y avait plus de cigarettes partout. C'est quoi? On interdit, au lieu de manger 5 fruits et légumes par jour, brossez-vous bien les dents, c'est d'interdire tout simplement la pub pour Nutella.
C'est une partie de la solution. Alors, les marques, franchement, ça ne m'intéresse pas, mais les produits, ça m'intéresse. Mm-hmm. Oui, il y a des produits qui sont objectivement trop toxiques.
Tu as Nutella, mais tu as tous les dérivés qui font exactement la même chose.
Je ne cherche pas vraiment à stigmatiser un acteur. C'est une industrie dans l'ensemble qui pose un problème. Et le fait de réguler la promotion, c'est une partie de la solution. Mais il n'y a pas que ça dans la régulation. On peut dire que... je vais te donner un exemple. Factuel, dans un pays qui n'est quand même pas le pays le plus violent du monde en termes de régulation, qui est les États-Unis, Michael Bloomberg avait interdit dans les années 2000-2010 que certains repas soient servis dans la restauration collective quand ils contenaient trop d'acides gras trans.
Ok.
C'est interdit. On n'avait pas le droit de dépasser un certain seuil. Donc c'est quand même ces choses qu'il a fait. Mm-hmm. Ça a marché. L'obésité a baissé à New York pendant cette période. Il a interdit. Donc on n'a pas le droit de mettre du poison dans le lait des bébés. Je ne sais pas si tu savais.
De préférence,
c'est interdit, on n'a pas le droit de le faire. Mais par contre, on a le droit de mettre du poison dans les produits ultra transformés.
Attends, ça c'est drôle ce que tu es en train de me raconter, parce que du lait pour bébé, c'est du lait en poudre, c'est transformé quand même.
Oui, bien sûr, mais on n'a pas le droit de mettre du poison.
D'accord.
Voilà, on n'a pas le droit. Mais c'est normal.
Oui, c'est normal.
Et pourtant,
ça ne choque pas
les gens qu'on mette du poison dans plein d'autres produits. Alors c'est vrai, c'est du poison à long terme, c'est cumulatif, ça met du temps.
Les E, qu'est-ce qu'on en sait?
C'est pas forcément même les colorants ou les additifs, c'est juste le fait que les produits sont transformés. Plus les produits sont éloignés de leur état naturel, plus ils sont transformés et plus ils sont dangereux pour la santé.
Et plus le corps se dit, mais qu'est-ce que tu es en train de me mettre dans le...
Ça met des dizaines d'années avant de se matérialiser, mais la réalité, c'est qu'on a des patients de 40 ans qui sont diabétiques, qui ont des infarctus, qui ont des cancers. C'est à cause, en grande partie, de l'alimentation. Les gens ne sont pas pleinement au courant de ça, je regrette. Et pourtant, c'est légal. Peut-être qu'on pourrait un peu agir là-dessus.
Toi, en tant que médecin, c'est quoi le credo des médecins ?
Honnêtement, les médecins... D'abord, je prétends pas parler au nom de toute la communauté médicale. Honnêtement, les médecins, ils ont une marge d'action qui, là aussi, est limitée. Je disais, le système de soins, c'est un système de réparation des problèmes. Donc les médecins, eux, ils ont un afflux de patients qui est constant. Tous les pays connaissent un déficit d'offres de médecins, hein, pour la... enfin pas tous, mais la plupart des pays ont un problème de pénurie de personnel médical, soignant médical ou paramédical. Mais nous, on est juste là pour traiter, quoi. Mmh. Donc la prévention, puisqu'on est en train un peu de parler de ça, c'est quelque chose qui se joue en dehors du système de soins. Si on veut vraiment être efficace en termes de prévention, il faut agir sur les industries qui produisent les risques.
Comme tu es là, comme tu l'as dit là tout à l'heure, vous êtes des réparateurs, vous n'êtes pas des constructeurs.
On n'est pas des magiciens. On est là pour réparer les problèmes, on y arrive, on n'y arrive pas. Mais plus on nous crée de problèmes en dehors de notre système, et plus ça va être difficile.
Cette notion, et on arrive tout doucement à la conclusion de cet échange, mais riche en savoir, merci beaucoup Jean-David, c'est justement ça, pendant cette pandémie, on a beaucoup protégé une population qui est pas majoritaire, mais qui est en grand nombre, donc ce sont les personnes du 3e et 4e âge.
Oui.
Et c'est normal, il y a des grands-parents, il y a ma mère là-dedans et tout ça. Mais c'est la première fois dans l'histoire de la planète Terre qu'on a autant de personnes âgées et qu'on a investi autant dans leur protection.
Exactement.
Je suis en train de me poser une question, et attention, ça risque de secouer peut-être pas mal de personnes. D'ailleurs, donnez-moi votre avis en commentaire. Dans un monde qui se réchauffe avec les limites qui sont les 9 limites planétaires qui sont dépassées pour l'habitabilité de la planète Terre sur l'avenir, et où beaucoup de personnes qui ont dépassé les 65 ans et 70 ans vivent dans des pays qui ont un taux de carbone par habitant de 11-12 tonnes, etc. Parce qu'il est évident qu'il y a une différence entre quelqu'un qui a 65 ans et qui vit au Sénégal et quelqu'un qui a 65 ans et qui vit ailleurs sur Terre, dans les pays un peu plus riches. Cette régulation naturelle, j'ai l'impression, mais due au système, hein, donc tu sais, malheureusement, hein, c'est horrible, hein, parce que je vais y passer, forcément, hein, j'espère pas, en tout cas, maladie cardiovasculaire, cancer, hypertension, diabète, toutes ces maladies chroniques qui sont en augmentation. Si demain, on se dit, ok, on arrive dans un consensus mondial de se dire, on change toute l'alimentation sur Terre pour que notre base soit saine, on adapte le système de soins, etc., etc., mais... Je veux dire, est-ce qu'on n'est pas face à une sorte de paradoxe par rapport à ce qu'on est en train de faire sur Terre en termes de problématiques ? Je veux pas être noir ou blanc.
Non, mais je vais répondre d'abord au début de ta question, qui est que effectivement, pendant le Covid, on a stoppé les économies des pays pour sauver toute la population, mais en particulier les populations qui étaient vulnérables. Je pense que les confinements pendant la pandémie, tout comme les crises financières, sont des bonnes démonstrations que les leaders politiques savent gérer les chocs.
Mmh.
Ils savent le faire. La semaine dernière, je ne sais pas quand sera diffusée la vidéo, il y a eu une banque dans la Silicon Valley qui a fait faillite.
Ouais.
Et donc, ça a fait peur à plein de gens. La Banque Centrale Américaine, la Fed, a tout de suite dit « on va donner l'argent ».
2008 en tête. Hein.
Voilà, exactement. Donc, on n'a plus de crise financière aujourd'hui. En tout cas, on n'en a pas eu, même pendant la crise de la zone euro, le système a été sauvé, il n'y a pas eu de cascade en faillite. Donc quand il y a des chocs, je trouve personnellement que les leaders politiques sont bons, qu'ils savent le gérer.
Au moment de la crise même, quoi.
Les confinements, ça a été un truc efficace, les économies ont été sauvées. Donc ça, ils savent le faire, alors qu'en plus, pour les confinements, ils ne l'avaient jamais fait. Alors, au moins, les crises financières, ils en ont connu, le confinement, ils ne l'avaient jamais fait, et pourtant, ils ont réagi très vite et de façon franchement efficace. Ils ont beaucoup plus de mal avec les catastrophes au ralenti, dont le changement climatique et dont la production de maladies métaboliques par les industriels dont on vient de parler. Donc ils sont bons quand il y a un choc, ils sont pas bons, ils n'ont pas réussi à freiner les émissions de CO2 mondiales. Alors on peut me dire que c'est peut-être plus difficile, moi je pense que c'est pas si difficile que ça pour la production de maladies métaboliques, qui est le truc que je connais un peu. Mais ça ils le font pas. L'obésité est en croissance dans quasiment tous les pays du monde, alors qu'il faudrait effectivement agir sur le système alimentaire pour que cette courbe se stabilise, puis soit en décroissance. C'est pas fait.
Le rapport du Club de Rome de Denis Meadows démontrait que potentiellement, et c'est un modèle, qu'entre maintenant et 2040, la population commence sérieusement à baisser, dû à la croissance qui baisse en général avec effet un peu au ralenti. On voit que les courbes sont pas totalement... on voit qu'il y a un effet de diminution des ressources, mais c'est un peu plus tard que tout descend. On va essayer de vous montrer.
Alors qu'il ne tenait pas compte du changement climatique.
En plus de ça, qui est encore un élément qu'on rajoute, et des limites planétaires aussi, il faut le préciser, fondamentalement de biodiversité, n'est pas non plus noté là-dedans.
Ouais. Parce qu'il n'y avait pas la connaissance scientifique pour raisonner avec ça.
Totalement, là on parle vraiment purement des ressources.
Extraction, pollution.
Exactement. Du coup, est-ce que c'est pas inscrit simplement cette baisse d'espérance de vie, et je vais y aller encore plus chaud que juste avant, Est-ce qu'il ne faut pas la souhaiter, en fait, cette diminution naturelle d'espérance de vie ?
Non, honnêtement, je pense qu'on peut faire complètement autrement avec les limites qui sont les nôtres. Enfin, rien ne nous oblige à manger 3 fois plus de sucre quand la population double. Rien ne nous oblige à avoir autant de pollution chimique qui, on n'en a pas parlé, mais est un facteur aussi complètement pervers et hypocrite de dégradation de la santé, en particulier chez les ados. Donc, on peut clairement faire autrement.
Donc, on conserve la population.
J'ai pas d'avis sur la démographie. C'est un sujet super sensible. En gros, ce que disent les démographes, c'est 8 milliards d'humains ou 10 milliards d'humains, on peut le faire. Voilà. 10 milliards d'humains qui vivent comme des Américains, on ne peut pas le faire.
Exact.
Bon. Et moi, je ne suis pas expert de ça, donc je répète un peu ce qu'ils disent, ou en tout cas, je me range à leur avis. Par contre, pour l'épidémiologie, c'est-à-dire la science de la santé des populations, bien sûr qu'on pourrait être tous en meilleure santé. Et en plus, on aurait un système qui serait environnementalement plus soutenable, parce que ce type d'alimentation et cette pollution chimique cause aussi des dommages environnementaux. Et dernièrement, économiquement, ce serait plus soutenable. Et ça, je pense que c'est une différence majeure entre le sujet que vous traitez le plus souvent, qui est la transition environnementale, et le sujet dont on est en train de parler là, qui est la transition épidémiologique. C'est que la transition environnementale, à court terme, coûte de l'argent. On sait qu'en France, c'est à peu près 4% du PIB, par exemple, qui doit être réinvesti chaque année pour faire une transition environnementale, alors qu'on est plutôt à 2 fois moins. Donc c'est un investissement, même si on peut se demander si 4% du PIB, c'est infaisable compte tenu du fait que l'avenir, c'est juste l'avenir de la planète. Enfin, l'enjeu, c'est l'avenir de la planète. Mais toujours est-il qu'on n'y est pas, et c'est un investissement significatif, je crois que c'est 80 milliards par an. La transition épidémiologique, c'est un truc qui rapporte de l'argent très vite. Et ça coûte pas d'argent, je veux dire, de mieux manger, de manger plus, de moins fumer, de moins boire, d'avoir un air moins pollué. C'est quelque chose qui tout de suite produit des effets épidémiologiques. Or, il y a une autre constante dans la science économique, c'est qu'une population en meilleure santé, c'est une population qui est plus performante économique. Donc, pour schématiser la transition environnementale, tout le monde sait qu'il faut la faire, mais ça coûte de l'argent. C'est pour ça d'ailleurs aussi que ça n'est pas fait à la vitesse nécessaire. Une transition épidémiologique, qui est un truc qui n'existe pas, hein, c'est un peu moi qui l'invente comme ça, c'est quelque chose qui tout de suite produirait un effet bénéfique net sur la santé d'une population, sur le bien-être aussi au passage, et qui ne coûte pas d'argent.
Donc, éduquer...
Agir sur l'offre.
Agir sur l'offre, exactement. Toute cette industrie, la transformer pour qu'elle arrête de transformer notre alimentation.
Exactement. En fait, il faut bien voir que quand on parle de régulation et de taxation, alors d'abord, il y a un truc qu'on me dit souvent, c'est « oui, mais les gens aiment manger ça ». Alors là, ma réponse, elle est très facile.
Hein,
voilà. C'est « tout le monde aimerait pouvoir bien manger ». Aujourd'hui, les gens aiment manger ça parce qu'on ne leur propose quasiment que ça qui soit abordable.
Enfin,
donc ils sont bien obligés de s'y faire. Si les gens avaient les moyens de se payer une alimentation fraîche et de bonne qualité, tout le monde serait content. Donc le truc de dire juste les gens aiment ça, laissez-les, c'est un mauvais argument, je pense. Donc je pense qu'il faut agir sur l'offre en régulant et en taxant. Je précise un truc pour la taxation qui est un autre argument légitime qui émerge mais qui est facile à mater. Qui est qu'on dit qu'on va taxer la pauvreté, toujours pénaliser les mêmes, etc. Un bon système de taxation, c'est un système qui est économiquement neutre ou économiquement favorable pour le consommateur. C'est-à-dire que si on taxe d'un côté, il faut détaxer de l'autre. Ce qui va devenir trop cher doit être associé à quelque chose qui devient pas cher du tout, voire même avec un prix négatif, on te paye pour partir du supermarché avec une pomme. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui vont refuser ça ? Non, plein de gens accepteraient. Une fois qu'ils vont rentrer chez eux avec la pomme, il y a peut-être des gens qui vont la jeter à la poubelle ou dans le jardin, c'est pas grave, ça fera du compost. Il y a quand même des gens qui vont la manger. Et donc, ils vont se prendre goût à ça, ils vont s'habituer à ça. Donc, mais ça, c'est pas du tout fait aujourd'hui.
Taxer les produits dégueulasses, récupérer cette caisse pour t'offrir des produits de qualité.
C'est la base.
Même si ta pomme a 25 fois moins de nutriments qu'il y a 50 ans,
c'est pas complexe. Et c'est sûr que si on faisait ça, ce serait beaucoup plus accepté. Évidemment, si on se contente juste de surtaxer des produits qui sont des produits du plaisir, les gens vont trouver ça injuste, et c'est normal. Mais si on fait un système de taxation, détaxation, et qu'on explique le projet, on dit on fait ça pour que vous et vos enfants soient en meilleure santé, parce qu'on trouve qu'aujourd'hui ça ne va pas, et les gens se rendent compte que quelque chose ne va pas. Il suffit de se balader dans la rue pour se rendre compte qu'on a un problème d'obésité.
Donc ce n'est pas un problème de démographie.
C'est pas un problème technique.
C'est ça.
C'est pas un problème technique. C'est pas compliqué.
C'est la répartition.
C'est un problème de gérer l'offre en régulant un peu, c'est-à-dire en interdisant certains produits, ou en tout cas en interdisant par exemple de mettre des distributeurs de produits transformés à proximité des écoles. Parce que là aussi, les enfants sont vulnérables, ils ont des tentations faciles. C'est pas très juste de faire ça. Donc c'est un problème d'offre à réguler et de demandes qu'il faut soutenir socialement, économiquement, en expliquant le projet. Les gens, ils ont envie d'avoir un projet aujourd'hui. C'est pareil pour l'écologie.
Est-ce que la décroissance peut répondre à ces questions-là ?
Alors, la décroissance, c'est un sujet qui, scientifiquement, est très complexe et qui, socialement, est très inflammatoire, et le livre ne prend pas parti là-dessus. Au minimum, par contre, je pense que c'est raisonnable de dire qu'il faut une décroissance des industries qui produisent les risques.
C'est ça.
Est-ce qu'il faut une décroissance d'ensemble ? Je ne sais pas, franchement.
Non, il faut que le système de sang... Il faut continuer. Il y a des trucs qui doivent continuer à croître.
Exactement, exactement. Et il y a des pays qui peuvent plus se permettre de croître que d'autres parce qu'ils partent de plus bas que d'autres.
C'est ça.
Mais est-ce qu'il faut une décroissance des industries qui produisent des risques ?
Oui.
Franchement, qui peut dire qu'il n'en faut pas ?
Waouh ! Jean-David, c'était super cool cette conversation. Merci. Est-ce que tu as un conseil à donner à ceux qui sont en train de nous regarder ? Même si tu les as déjà donnés dans ce que tu peux proposer.
Hein. Non, je pense que le message, mais j'espère que ce qu'on a dit a déjà permis de le faire passer, c'est que effectivement, la mystification des dernières décennies, ça a été de dire aux États de se désinvestir de la santé en prétendant que la santé, c'était une affaire individuelle. Mmh. Et que donc, les individus étaient libres, il fallait les laisser tranquilles, ils savent ce qui est bon ou mauvais pour eux, etc. Cette histoire est complètement fausse, et c'est pour ça qu'elle a mis les systèmes de soins dans le mur et qu'elle a produit une croissance des maladies chroniques qui sont des maladies évitables. Et donc, bien sûr que les gens ont une part de responsabilité et de liberté individuelle et ils doivent pouvoir l'exercer. Mais après, c'est un peu dommage de tomber malade pour de mauvaises raisons ou de mourir trop jeune pour de mauvaises raisons. Et c'est lié en partie à cette histoire fausse qui est que la santé serait une affaire individuelle. Ah non, la santé, c'est une affaire un peu collective. On l'a vu avec le confinement et la pandémie. Et les États doivent réinvestir la santé. Il s'avère que c'est ce qu'il y a de plus rentable pour un État. Un État ne peut pas être perdant économiquement quand il investit dans la santé. C'est le truc qui marche à tous les coups, quoi. Et ça passe par la santé publique, ça passe par l'offre de risque qui doit être réprimée à un moment ou à un autre.
Merci Jean-David.
Merci beaucoup Vincent pour l'invitation.
Avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner les amis, liker, commenter, vous savez comment ça se passe. Et à bientôt sur les mythes.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous rappelle qu'il est également disponible sur YouTube en vidéo. Et nous sommes aussi présents sur les autres réseaux sociaux. Retrouvez nos articles et notre actualité sur le site limite.media. Et si Limite existe, c'est intégralement grâce à vous. Vous pouvez nous aider en envoyant un don sur Tipeee ou encore PayPal.me. Mais le plus important, si vous aimez notre travail, c'est de le partager tout autour de vous. Merci et à bientôt sur Limite. Limite.
Quelle est ta définition du réel ?